thème prédéfini, et je me suis donc posé la question, de quoi pourrait-on bien parler? Et puis, je me suis rappelé que, bien, demain, c'est la rentrée. Voilà, donc ceux qui n'étaient pas encore au courant maintenant n'ont plus aucune excuse. Et la rentrée, c'est un événement qui est pourtant récurrent, mais qui nous remplit une certaine nostalgie chaque année. Il s'agit de reprendre le collier, ou pour ceux qui n'ont pas pris de vacances formelles, de se départir de l'esprit quelque peu indolent que l'on prend volontiers sous le soleil estival. Je me souviens, moi, quand je suis rentré en 6e, j'avais 9 ans, et j'étais jusqu'à la porte accompagné de ma mère. Mais fini la petite annexe primaire, j'étais en effet dans la dernière classe qui était intégrée au lycée dès le cours préparatoire, qui donc s'appelait à l'époque, et pour la dernière fois, la 11e. Donc après la 7e, j'arrivais en 6e, dans l'autre partie du lycée. Fini la petite cour avec ses marronniers, on n'avait pas le droit de ramasser les marrons, par respect pour les vitres. Mais beaucoup finissaient tout de même dans nos poches. Fini M. Fourcroy, mon dernier instituteur. Il fallait affronter une immense cour, vraiment très grande dans cette partie du lycée, où avant même d'avoir mis un pied, je me sentais perdu et paniqué. C'est donc la boule au ventre que je suis entré dans cette arène. Peu après, on a fait l'appel, et peu à peu, des rangs se sont formés. Devant un professeur impassible, je voyais ma nouvelle classe se former peu à peu. Quelques 35 nouveaux camarades. Ce n'est pas une erreur de calcul. Camarades ou pas, que je voyais pour la première fois. Mais à midi, c'était déjà différent. Nous avions apprivoisé notre nouveau royaume. Nous allions pouvoir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles langues, vivantes ou mortes, et presque d'aller faire les courses chez Brunet, le libraire du centre-ville, et pour avoir des cahiers et des crayons tout neufs. La rentrée, c'est donc un moment où tout change. Un nouveau chapitre de notre vie s'ouvre, et pour les plus jeunes, c'est l'entrée dans la classe supérieure, de nouveaux professeurs, un nouvel emploi du temps, parfois de nouveaux condisciples, et un nouveau coup de collier à donner. Pour les autres, c'est aussi la reprise avec plus ou moins de courage, et parfois de nouveaux horizons également. Heureusement, nous ne sommes pas sans ressources. Non. Alors, pour illustrer la rentrée, nous allons observer une scène où il y a comme un parfum de rentrée. Un nouveau départ où, nous le verrons, plus rien ne sera comme avant. Je vous propose donc de prendre le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Où nous voyons donc quelques tableaux. Le premier tableau, donc, c'est Lazare mourant. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était de cette Marie qui oignit le parfum, deux parfums de Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et se retournent en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Deuxième tableau, nous voyons donc le tombeau de Lazare. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, soit 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit. Il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?»« Et où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui dirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Troisième tableau, là, toutes choses sont faites nouvelles. C'est la résurrection de Lazare. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme ils l'aimaient. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une forte voix, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus. Ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclarât afin qu'on se saisît de lui. Quatrième tableau, la rentrée concluante. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, nous avons ici donc une scène magnifique dans ces 4 tableaux que nous avons devant nous. Donc, dans ce premier tableau, qu'est-ce que nous voyons? Une scène en quelque sorte ordinaire de la vie de Jésus. Avec ses disciples, il parcourt la contrée en faisant du bien, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Ce que nous rapporte Luc dans le livre des Actes au chapitre 10. Et voici qu'on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Lazare, qu'il aimait tant, est mourant. Jésus semble pourtant ne pas s'en émouvoir. En tout cas, il reste sur place et continue son programme à la lettre. Et 2 jours après, et quand ses disciples semblent avoir complètement oublié cette annonce tragique, il se met en route vers la Judée, soit vers Béthanie. Les disciples n'y voient que des ennuis, en bousculant la train-train quotidien. Mieux vaut rester en Samarie, vraisemblablement, que d'aller en Judée où l'hostilité règne. C'est la conclusion désabusée de Thomas. Il ne s'agit pas à la pensée du Seigneur, qui leur indique de marcher pendant le jour, soit en se guidant sur sa parole, à sa lumière, lui qui fait tout parfaitement. L'apôtre Paul peut nous préciser à ce propos dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui est fait au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses seront démasquées, leur véritable nature paraîtra à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Voilà donc ce que Jésus tente à leur montrer. Marchez donc pendant le jour à sa lumière, et de rester donc dans des actions de lumière, sans se soucier de ce que les ténèbres peuvent avoir en face. Des actions des ténèbres, qui effectivement sont généralement hostiles, et pour les disciples et pour nous, à sa suite. Cela n'a en aucun cas empêché Jésus de retourner en Judée, connaissant parfaitement l'hostilité des Juifs, et nous avons lu dans la suite de ce chapitre qu'elle n'était pas sainte. Alors du coup, Jésus précise ses intentions, et nous apprenons ainsi le but de son apparent retard. C'est à cause des disciples qu'il a différé son départ. Il se réjouit de ce que là sera pour eux, et pour nous à la suite, un moyen de croire, d'avoir les yeux qui se dessillent. Et ce récit est un effet poignant de vérité. Nous y voyons les prémices d'un acte majeur du Seigneur, dont le déroulement commencera à Béthanie. Nous sommes donc ici à la fin d'un cycle, et bientôt il va y avoir une rentrée, une entrée en scène du Seigneur pour établir toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi donc le Seigneur a, entre guillemets, différé son départ. Ce qui fait qu'il est arrivé 4 jours après la mort de Lazare à Béthanie. Il a différé son départ parce que cela allait mettre pleinement en lumière ce qu'il était, ce qu'elle était le but de sa venue sur cette terre pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Marthe l'avait déjà passablement discerné puisqu'elle avait parfaitement compris qu'il était le Messie. Et voilà donc, nous arrivons donc dans le deuxième tableau où nous sommes donc près du tombeau de Lazare. Nous tombons ici en plein dans un deuil traditionnel oriental. On vient consoler, entre guillemets, la famille, consoler de manière très traditionnelle et bien hypocrite. Mais nous voyons que Jésus reste à l'écart, il n'entre pas dans le village. Marthe, toujours active, vient immédiatement à sa rencontre, elle sait que toute ressource est auprès de lui. Mais dès que Jésus lui annonce la résurrection de son frère, et qu'elle comprend ce que le Seigneur va faire, elle court chercher sa sœur, comprenant qu'elle doit être auprès du Maître, lui qui l'appelle silencieusement. Nous voyons en effet pas Jésus appelé formellement Marie, en tout cas pas dans le texte, mais nous comprenons nous aussi que Marie devait être auprès du Seigneur comme nous devons l'être à chaque instant. Et Marie arrive donc, dévastée de chagrin. En langage moderne, on dirait qu'elle ne sait même plus où elle habite. Elle est dévastée. Marthe, bien qu'elle ait reproché en quelque sorte Jésus de son absence, était pleine d'espérance devant son Seigneur, reconnaissant son omnipotence. Mais Marie, quant à elle, elle est déboussolée, elle ne comprend plus. Il est vrai que la consolation toute relative et toute humaine et toute hypocrite des Juifs, qui d'ailleurs lui collent au basque, ils l'ont accompagnée, ils l'ont suivie, elle ne pouvait lui être d'aucun secours et même ils la déroutent et lui font abandonner tout espoir. Cette scène catastrophique n'échappe pas au Seigneur. Et alors, c'est extraordinaire, nous le voyons pleurer. Nous voyons pleurer Jésus. Il pleure sur l'incrédulité des Juifs et parce qu'il perçoit la peine de Marie, la peine de cette famille, dévastée par les circonstances. En effet, Jésus laisse libre cours à ses sentiments. Et pleurer n'est pas synonyme de faiblesse. Ses larmes justifient tous les pleurs de ceux qui souffrent. Car le stoïcisme n'a pas l'approbation divine. Mais voilà, cette scène si poignante annonce le tableau suivant, qui vise à montrer et claironner la puissance d'amour de Jésus. Dans le troisième tableau, nous voyons que toutes choses sont faites nouvelles à la résurrection de Lazare. Nous sommes donc maintenant devant le tombeau de Lazare. Les inquiétants montrent pour beaucoup encore beaucoup de scepticisme, d'incrédulité, de méchanceté. Lui qui a ouvert les yeux de la personne aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? C'est la réflexion qu'on entend. Et cela fait encore frémir Jésus, qui connaît parfaitement les cœurs. Et ces hommes qui avaient admis que Jésus pouvait guérir Lazare, ce qui était pourtant un acte miraculeux, ce qui aurait été pourtant un acte miraculeux, à n'en point douter, ils n'imaginent même pas que Jésus peut de la même façon le ressusciter. Ainsi Jésus s'amena à prononcer cette prière que nous avons lue à très haut de voix pour que tous entendent et puissent croire. Et après avoir précisé à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et ce miracle a pour résultat que beaucoup parmi les assistants ont les yeux ouverts et ont cru en Jésus. Voilà quel était le but. Que tous, que beaucoup du moins, que plusieurs puissent croire. Que de ce récit aussi, qui nous est rapporté, soit pour le salut de chacun. Donc beaucoup parmi les assistants ont les yeux lus, les yeux ouverts et ont cru en Jésus, en son métamorphose d'espérance. Cette résurrection qui annonçait clairement ce qui allait se passer une semaine plus tard, un peu plus d'une semaine plus tard, la crucifixion et la résurrection du Seigneur au bénéfice du monde entier. Et l'apôtre Paul peut nous faire encore un commentaire intéressant au la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà donc notre position. Nous ne connaissons plus le Christ uniquement selon la chair, mais nous le connaissons selon le fait qu'il est cet homme, cet deuxième Adam ressuscité, et qui nous a donc préparé cette place dans le ciel. Ceux qui avaient donc assisté à cette scène savaient donc indubitablement que la mort ne pouvait retenir le Seigneur, crucifié pour la nation tout entière, mais qu'il était la résurrection et la vie. Il venait de le prouver de manière éclatante et devant un auditoire conséquent. La mort ne pouvait le retenir comme et la résurrection et la vie, comme il l'avait précisé à Marc dans la deuxième partie de notre lecture. Mais l'incrédulité latente du peuple fait que les huiles et les personnages importants du peuple, dès qu'ils eurent connaissance de ce fait, de ces faits, n'ont de cesse que de faire mourir Jésus. Il y a donc ce que craignaient les disciples, ce qui faisait qu'ils ne voulaient pas rentrer en Judée. Et effectivement, cela se concrétise. Cette goutte d'eau, ce miracle, une goutte d'eau, entre guillemets, c'est ce qui fait déborder le vase, cet acte immense que nous voyons ici, eh bien, fait qu'ils mettent tout en œuvre pour parvenir à leur fin. Mais cette méchanceté aura pour conséquence, pour seule conséquence, ce merveilleux résultat, le salut pour le monde entier. Voilà donc tout ce qui se passe ici. Continue donc après, dans le chapitre 12, par ce souper que nous voyons, et qui est dans une certaine manière une rentrée concluante. Dans ce dernier tableau, nous comprenons que plus rien n'est comme avant. Quelle sérénité nous percevons dans ce tableau que l'on pourrait qualifier de familial. Quel privilège de souper avec celui qui avait ressuscité Lazare. Il est évident que cela était encore dans toutes les pensées des convives. Rien ne pouvait plus être comme avant. Et en effet, Marie profite de cet instant privilégié. Elle a compris pleinement maintenant qui était le Seigneur, ce qu'il était venu faire, qui il était, et que c'était le moment opportun pour lui rendre gloire. Marie profite de cet instant privilégié pour honorer le Seigneur, et de si belle façon. Cet acte dont le Seigneur précise ce qui est relaté dans l'évangile de Matthieu, que dans le monde entier, partout cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Une chose extraordinaire, et nous à sa suite, nous apportons la louange d'une manière plus abstraite, Mais quand nos cœurs débordent de cette louange, eh bien, elle est comme un parfum répandu pour le Seigneur. Alors, cela n'est-il pas un immense encouragement pour nous qui sommes au bénéfice de l'œuvre accomplie par notre Seigneur sur la croix, de repartir sur le chemin, en cette rentrée, dans ce mois de septembre, plein d'énergie, en considérant celui qui nous a précédés sur le chemin, dans sa lumière, donc en ayant vaincu les ténèbres, ces ténèbres qui ne peuvent plus nous retenir. Il nous a précédés sur ce chemin, et il a été dans ce chemin comme nous, tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Le péché n'avait aucune prise sur lui. Et nous, nous ne pouvons que courber la tête en pensant donc aux perfections du Seigneur. Mais pourtant, le peuple d'Israël, quand le prophète Balaam peut voir donc les tentes d'Israël, il dit que tes tentes sont belles. Je n'ai vu aucune iniquité en Israël, en Éphraïm. Et pourtant, il y avait bien des choses à déplorer dans le peuple, mais au travers du sacrifice du Seigneur, eh bien, nous aussi, nous sommes rendus parfaits et à la perfection par l'œuvre du Seigneur. Et donc voilà cet encouragement que nous avons de pouvoir continuer ce chemin maintenant, cette rentrée, en considérant comme Marie qui était le Seigneur, ce qu'il avait fait, et en nous efforçant par notre conduite, comme l'apôtre Paul nous le précise dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, que nous sommes dans la lumière et que les ténèbres, eh bien, nous les avons abandonnées définitivement. Voilà donc ce que le Seigneur nous propose en cette rentrée, de marcher donc plein d'énergie, avec sa suite et avec toute la force que lui seul peut nous donner.